Avec Europe 1, prenez un temps d'avance. Toute la nuit, Europe 1 est en direct du CES de Las Vegas. Le CES, c'est le salon incontournable de l'électronique grand public. Pour ne rien manquer des technologies innovantes, Europe 1 vous entraîne au cœur de l'innovation et de ce qui fera sans doute notre monde de demain. Europe 1, en direct de Las Vegas. Vous avez rendez-vous avec le futur. Grégoire Martinez, François Geffrier.
Bonne nuit et bonjour à tous. Nous sommes en direct de Las Vegas. Il est 1h du matin en France, 16h ici, hier, si l'on peut dire, encore mardi ici à Las Vegas aux États-Unis. Et c'est parti pour 4h d'émission spéciale. Europe 1 a choisi de vous faire vivre en grand format ce rendez-vous absolument incontournable du monde de la technologie qu'est le CES de Las Vegas. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas ce que je dois dire. Bonsoir Guérin Martinez.
Bonsoir François.
Vous êtes le geek de la rédaction d'Europe 1, le spécialiste de tout ce qui est de près ou de loin connecté ou technologique, et vous venez chaque année au CES de Las Vegas.
Et oui, c'est pareil pour vous François, du service économie d'Europe 1, parce que le CES, le Consumer Electronics Show en presque bon français, c'est le salon où sont dévoilées toutes les innovations qui vont changer nos vies. Ici, depuis ce matin, on a entendu parler d'objets connectés à tout bout de champ, de voitures sans pilote, de robots, d'intelligence artificielle. Et pourtant, nous sommes bien installés au cœur de cette ville complètement folle qu'est Las Vegas, au rez-de-chaussée d'un hôtel de 7000 chambres. Pour venir ici, pour vous donner une idée, on a dû passer depuis la réception devant quelques centaines de machines à sous. Et ce n'est pas un cliché, c'est le vrai Las Vegas qui se transforme en quelques jours en capitale mondiale de l'innovation.
Et à tout moment, vous pouvez réagir à ce que vous entendez, vous pouvez poser des questions à nos invités. Vous connaissez le principe du hashtag Europe 1 sur Twitter. Exceptionnellement, ça fonctionne toute la nuit. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur la page Facebook d'Europe 1. Alors, quel est le programme? Jusqu'à 5h du matin en direct, nous vous avons concocté une émission qui va vous donner envie d'être déjà dans le futur de nos déplacements, les voitures autonomes, les avions électriques, les taxis volants, tout ça. C'était de la science-fiction il y a quelques années, ça commence à fonctionner. Nous avons même testé certains de ces engins. On va aussi explorer le futur de votre santé, mais rassurez-vous, pas question de vous faire passer des examens à l'hôpital. Là, il s'agit de petits objets discrets qui vous aident à mieux dormir, à mieux vous brosser les dents ou encore à éviter de subir la pollution.
Et puis dans 2h, à 3h du matin, si vous êtes d'humeur festive, nous serons en direct avec des inventeurs qui essayent d'allier l'utile à l'agréable. Ils viendront nous montrer ici en plateau leur machine à bière et leur distributeur de vin, tout ça étant bien sûr connecté. Nous verrons aussi à quoi ressemblera la maison de demain, chauffage intelligent, micro-ondes connectées, téléviseur toujours plus grand. On verra à quoi ça peut vous servir. Enfin, dans la dernière heure de cette émission, on se projettera dans 5 ans, après la 3G, la 4G, voici la 5G qui arrive sur nos téléphones, plus rapide et surtout plus fiable. Et puis on verra qu'on peut commander toute la maison et ses appareils électriques en leur parlant. Peut-on acheter un billet de train, faire ses courses ou faire un virement bancaire en donnant des ordres à une machine? Là aussi, nous avons testé et nous aurons sur ce plateau les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle et de la commande vocale.
Voilà pour le programme de cette folle soirée en direct de Las Vegas sur Europe 1. 4 heures de direct, 35 invités qui vont se succéder ici au micro pour vous et 10 reportages ou tests en conditions réelles de ces innovations et gadgets en tout genre.
Avec Europe 1, prenez un temps d'avance. Toute la nuit, Europe 1 est en direct du CES de Las Vegas.
On commence donc cette émission avec ces voitures qui se conduisent toutes seules comme dans les films. En quelques minutes, vous entendrez ce reportage d'Europe 1 fait hier dans les rues de Las Vegas à bord d'une voiture française sans conducteur au milieu de la circulation de cette ville géante. C'est ce qu'on appelle une voiture autonome et c'est en train de bouleverser l'industrie automobile. Nos invités, Jacques Aschenbroix, bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1 ici à Las Vegas. Vous êtes le PDG de Valeo, un grand groupe français équipementier automobile. Votre entreprise est très en pointe dans ce domaine de la voiture autonome, tout comme le vôtre. Fabien Roth, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur marketing de Panasonic Automotive en Europe. Nous serons aussi avec la patronne du marketing du constructeur américain Ford et avec le vice-président d'Intel dans quelques instants. Joli plateau. Et avant de commencer la conversation, Grégoire.
Eh ben, on voulait engager la conversation et vous expliquer un peu ce qui se passe ici à Las Vegas, à quoi ça ressemble avec vous, Paul Lassen. Vous êtes notre reporter tout terrain à Las Vegas depuis le début de la semaine, depuis qu'on est arrivé dimanche. Alors, tout simplement, où est-ce qu'on est?
Ouais, alors, actuellement, on est sur le stand d'une start-up française, Netatmo, dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission. Et ce beau plateau, il est au cœur d'un hôtel démesuré, le Venetian, qui vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est la réplique presque exacte de la ville de Venise avec la place Saint-Marsecano et même les gondoliers qui chantent en italien. Et tout ça au milieu, Grégoire, vous l'avez dit pendant le sommaire, des tables de blackjack, de poker, des milliers de machines à sous que compte le casino de l'hôtel. Alors le Venetian, c'est l'un des deux centres du CES. L'autre, encore plus grand, se trouve à seulement quelques centaines de mètres de nous. Ces deux fourmilières où sont attendus 180 000 visiteurs sont perdus au milieu de cette immense ville complètement à part. Vous avez peut-être déjà vu des films ou des séries et entendu parler des mythiques César Palace, Bellagio ou MGM. Et on l'a vu en se baladant, François et Grégoire, Las Vegas, c'est vraiment une ville à part.
Merci beaucoup Paul Lassé. On vous retrouvera toutes les heures dans cette émission pour nous raconter ce que vous avez vu ici dans les allées du CES. Alors je me tourne vers nos invités, votre présence à tous aujourd'hui à Las Vegas montre d'abord une chose, Jacques Aschenbroix, PDG de Valeo, c'est que l'automobile finalement c'est pas du tout cette industrie vieillissante qu'on croit parfois, au contraire c'est au cœur de l'innovation pour les 20 ou 30 prochaines années.
Il y a d'énormes révolutions qui sont en train de se passer dans l'automobile, il y en a trois qui vont complètement façonner l'industrie automobile des années qui viennent, c'est le véhicule électrique. C'est la voiture autonome, vous en avez parlé, et puis c'est toute cette mobilité digitale. Donc on est vraiment au cœur des révolutions. Et ce qui est intéressant ici à Las Vegas, c'est que l'électronique grand public rentre dans la voiture. L'intérieur de la voiture va être complètement différente et il va y avoir de plus en plus d'électronique et d'électronique grand public dans les voitures.
Et alors du coup, ces voitures, on sait déjà quand est-ce qu'elles vont prendre la route, on en a une idée ?
D'abord, elles sont là. Vous en avez essayé une,
celle
de Valeo, qui circule dans les rues de Paris. Et au Mondial de l'Automobile, en octobre dernier, il y en avait une autre qui circulait. Ce sont des capteurs dans la voiture, qui sont des capteurs en série que nous produisons. Et beaucoup de logiciels, beaucoup d'intelligence artificielle qui permet à la voiture de s'adapter à son environnement. Donc la voiture est là. Alors ce sont des tests, mais la voiture autonome est exploitée aujourd'hui sous forme de robot-taxi par Google, une de ses filiales qui s'appelle Waymo,
aux États-Unis,
pas très loin d'ici, à Phoenix, et ça va se développer. Et la question que vous allez me poser, c'est quand est-ce que vous et moi pourrons acheter une voiture autonome ?
Donc
ça prendra un tout petit peu plus de temps, probablement une petite dizaine d'années.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pardon, toutes les technologies sont prêtes pour qu'on ait cette voiture autonome ?
Alors toutes les technologies sont prêtes, dans la mesure où elles sont prêtes et elles sont chères, dans la mesure où des voitures autonomes, il y a des millions de kilomètres qui ont été parcourus dans les rues dans ces 10 dernières années. Il y a maintenant plusieurs millions de kilomètres qui sont parcourus par mois. Donc on voit qu'il y a un énorme progrès qui sont faits. Et les robotaxis sont présents. Essayez-en. Alors, en France, il y a aussi deux start-up, une qui s'appelle Navia, dont on est actionnaire, une autre qui s'appelle EasyMile, où il y a des navettes électriques et autonomes qui circulent dans un certain nombre de villes en France.
Alors Fabien Roth, vous représentez Panasonic Europe. Panasonic, pour nous, c'est les postes de télévision, c'est à la limite des appareils photo. Vous faites aussi des voitures autonomes ?
Alors, on ne fait pas de voitures autonomes, on est équipementier, c'est-à-dire qu'on produit des composants qu'on vend aux différents fabricants. Et ces composants-là, ce sont des composants généralement qui sont électroniques, donc qui permettent justement à la voiture électrique d'exister, comme des chargeurs par exemple ou des onduleurs. On est également numéro un mondial.
Qu'est-ce que c'est un onduleur,
Alors, un onduleur, c'est si votre prise de courant, si vous voulez, elle est alternative, votre batterie, elle est continue, donc il va bien falloir à un moment transformer le courant. Donc, cette technologie, ce know-how, si vous voulez, on l'a du grand public, puisqu'on a un certain nombre de produits évidemment qui fonctionnent sur du continu en grand public, et donc on l'a apporté à l'automobile. La partie batterie également, puisqu'on est fournisseur de batterie. Sinon, notre rôle, c'est aussi d'amener les technologies de l'audiovisuel, celles que vous avez dans votre salon. Donc l'image, évidemment avec l'écran, avec des écrans transparents ou semi-transparents, mais aussi la partie caméra, la partie acquisition d'image qu'on connaît bien avec vos caméras du grand public. Et puis toute la partie aussi connaissance de l'utilisateur et que fait l'utilisateur dans son salon. Est-ce qu'il va peut-être pas faire la même chose dans sa voiture ?
Dans quelques instants, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut énormément de technologies différentes pour aboutir à cet objet de fantasme, de science-fiction qu'est la voiture autonome.
Ben oui, parce que ce qu'attendent les gens, c'est quand même de retrouver une atmosphère qui les met en confort, qui les met en confiance. Et puisqu'ils ne conduisent pas, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose. Donc c'est à nous de préparer ça et d'inventer finalement quelles seront les activités, comment les gens vont interagir. Et on peut même aller plus loin d'un point de vue sociologique, c'est que si le conducteur ne conduit plus, si c'est plus le chef de la voiture, à ce moment-là, qui va diriger la voiture ? Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un ? Ben non, les rôles finalement, ils vont être redistribués.
Et ben justement, hier, dans les rues de Las Vegas, nous sommes allés essayer une voiture autonome sur route réelle, c'est-à-dire avec d'autres vraies voitures conduites par des humains qui roulaient à côté de nous. C'est une voiture de Valeo et je vous propose d'écouter ce reportage européen que nous avons réalisé hier ici à Las Vegas.
À première vue, à part la peinture verte fluo, rien ne distingue ce gros SUV, tout ce qu'il y a de plus américain, des autres voitures qui circulent sur la Paradise Road de Las Vegas, sauf que le conducteur ne conduit pas.
Alors là, je ne touche ni au volant, ni aux pédales. Il n'y a aucune action demandée au conducteur, c'est la voiture qui a tout le contrôle et qui va effectuer sa mission.
Le prototype, équipé de 7 radars, 8 scanners et 5 caméras, se faufile au milieu des autres voitures à 50 km/h, tranquille. Tous les mouvements des autres voitures et des piétons sont anticipés, explique le directeur de l'innovation de Valeo, Guillaume de Vauchel.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun à-coup. L'intelligence artificielle permet d'avoir une conduite qui imite parfaitement la conduite humaine. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation.
Conduite souple, sauf au moment où une voiture en face semble vouloir nous couper la route.
Il y a un petit coup de frein là.
Voilà, il y a eu un coup de frein. Le véhicule, de manière préventive, a estimé que le véhicule qui était à notre droite sortait d'un parking. Il s'est engagé un peu brutalement. Donc le système a préféré freiner. Donc il prend forcément une décision forcément la plus sûre possible.
Un problème qui n'arrivera plus quand toutes les voitures seront autonomes puisqu'elles se parleront entre elles grâce à la 5G. Rendez-vous dans 2 ans pour monter à bord.
Voilà, c'était hier et c'est la voiture de demain. Vous êtes bien sur Europe 1. Si vous avez du mal à trouver le sommeil ce soir, ça tombe bien quelque part. Nous sommes en direct de Las Vegas. Il est 16h10, 16h11 ici à Las Vegas, 1h11 du matin à Paris. Et on continue à parler de ces voitures sans conducteur. On entendait Jacques Aschenbroix, PDG de Valeo, dans ce reportage. Franchement, c'est assez bluffant. Moi, j'étais hier dans cette voiture avec Olivier Duval, technicien d'Europe 1, et Paul Lassène, notre reporter. Et on était à 50 km/h. Tout était normal. Juste ce petit coup de frein à la fin. Est-ce qu'il y a encore un aspect un peu brusque dans la façon dont le système se comporte pour l'instant ?
Alors, je ne sais pas l'expérience que vous avez eue hier. Vous avez l'air de dire que c'était une très belle expérience. Voilà. Mais ce qui est très impressionnant dans les progrès qui ont été faits ces dernières années, ces derniers mois, c'est que la voiture conduit de plus en plus comme vous et moi nous conduisons, de façon assez souple, de façon très régulière. La voiture respecte le code de la route.
Oui,
le code de la route, est différent ici, à Las Vegas, qu'il est en France. Donc, il faut qu'elle apprenne à s'adapter au code de la route.
On a compris que les voitures avaient le droit de tourner à droite au feu rouge.
Voilà, exactement. C'est quelque chose qui est spécifique à certains États américains, qui est impossible chez nous en France. Le feu rouge est de l'autre côté de la voie, alors qu'en France, il est du même côté que ce qu'on a. Donc, il y a énormément de différences et la voiture s'adapte. La voiture respecte le code de la route. La voiture évite les dangers. Et donc ça, c'est énormément de progrès. Et ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est que cette voiture, je l'ai dit tout à l'heure, est très souple, est très agréable et donne l'impression d'une énorme sécurité.
Et du coup, avec tout ça, ça veut dire qu'on n'aura plus d'accidents dans une voiture autonome ?
Alors, il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de morts par an sur les routes. Donc c'est un vrai fléau.
Dans le monde.
Et on estime qu'une voiture autonome, quand elles seront complètement efficaces, technologiquement adapté, pourrait économiser 90% de ces morts et de ces accidents. Donc c'est considérable en termes d'avancée. On voit bien que dans les expériences qu'on peut avoir, quand un piéton traverse de façon inopinée, la voiture s'arrête peut-être quelquefois un peu brusquement, mais quand vous-même vous êtes surpris par un objet, eh bien vous freinez brusquement.
Et parfois il y a un gros mot qui part et là la voiture en revanche est très polie.
Absolument. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'ordinateur de la voiture ne lit pas ses mails, ne téléphone pas, n'est pas assoupi, ne boit pas.
C'est ça, il est concentré,
ne digère pas,
à 100%
il est concentré à 100% justement sur la conduite du véhicule.
Et nous, Fabien Roth, Panasonic Automotive, on a une idée de ce qu'on fera, sur quoi on se concentrera dans cette voiture autonome ?
Alors, il y a quatre axes. Il y a un axe qui est un axe dans lequel vous allez vouloir travailler. Donc, vous allez vouloir vous isoler. Donc, pour ça, on a des technologies de réduction du bruit, par exemple, pour permettre de travailler, de faire un conference call sans que vous soyez dérangé. Vous allez pouvoir aussi vous divertir. Donc, avec à ce moment-là les technologies de l'audio vidéo, vous allez pouvoir simplement converser, socialiser, enfin être en famille par exemple, où vous allez pouvoir vous reposer. Et donc pour ces chaque 4 applications, ben évidemment on va avoir une configuration de siège, d'espace, de lumière, de température qui va correspondre.
Et ça veut dire que ce sera adaptable quelque part. Les sièges pourront se tourner pour qu'on se regarde les uns les autres.
Alors dans ce qu'on présente au CES, par exemple, effectivement, on a cette notion de siège qui tourne. Vous pouvez vous isoler ou pas. De caméra qui regarde quelle est la température dans la voiture, qui peut ajuster la température pour chaque siège, qui va tenir compte de l'environnement, qui va être capable aussi de réduire le bruit extérieur, qui va pouvoir permettre de vous isoler, par exemple, ou de converser à plusieurs. Et ces technologies-là, justement, permettent d'avoir une expérience qui est la vôtre, sur laquelle vous vous sentez bien.
Alors, comme Valeo et Panasonic, d'autres entreprises développent des capteurs toujours plus précis et plus puissants pour que la voiture autonome puisse rouler et se repérer. C'est le cas aussi de Mobileye, une société israélienne qui fait partie du groupe Intel et qui est présente ici au CES. C'est normal, c'est là qu'il faut être en ce moment, à Las Vegas. Son vice-président était avec nous sur Europe 1. Bonjour Erez Dagan.
Hello.
Qu'est-ce que vous présentez cette année au CES en matière de voiture autonome ?
So we will be sharing several interesting updates.
Nous allons présenter plusieurs nouveautés au CES cette année. Nous allons d'abord présenter une activité de cartographie qu'utilise nos prototypes pour recueillir des informations sur les routes. C'est un nouveau business qui se développe. La deuxième annonce, ce sont des contrats et des partenariats avec Volkswagen et les bus de Pékin en matière de mobilité. L'idée, c'est de donner aux clients du monde entier des kilomètres parcourus plutôt que de leur vendre des voitures. Et puis, on va aussi annoncer un partenariat stratégique, cette fois avec une très grande entreprise chinoise.
Vous êtes des experts de la voiture autonome. De quoi a besoin une voiture comme capteur, comme radar, comme ordinateur pour être autonome ?
Alors, pour construire des voitures autonomes, il faut être capable de reproduire l'environnement de la voiture et ça en temps réel. Quand on parle d'environnement, il y a trois éléments clés qui reviennent. Les usagers de la route, la structure de la route et les limites de la route. Si on sait reproduire tout ça dans le système, la voiture peut être autonome. La combinaison de caméras, de radars, de scanners et d'une carte haute définition en temps réel vous donne une simulation en temps réel de ces éléments. La forme de la route, les limites et les conducteurs. L'étape suivante, c'est la prise de décision.
Et alors, est-ce qu'on a tout aujourd'hui ? Est-ce que tous ces outils sont développés ?
Nous sommes très proches de pouvoir mettre sur le marché une voiture. Un de nos challenges maintenant, c'est de prouver que la technologie fonctionne. C'est une technologie en soi que de définir une certification. L'industrie de l'automobile a des procédés très stricts et une vraie expérience sur la mise sur le marché de nouvelles technologies sûres. Et ce sera la même chose sur les véhicules autonomes.
And autonomous driving is going to be one of these as well.
Qu'est-ce qui est le plus dur à réussir en ce moment pour que la voiture devienne vraiment autonome?
Donc, le défi à relever pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre une conduite souple et une conduite dangereuse. Si on trouve ce point d'équilibre, on saura conduire, par exemple, autour de l'Arc de Triomphe chez vous sans accident. Le challenge est très important. Il faut savoir faire ça de façon habile et malgré la circulation, sinon on n'ira nulle part. Mais on ne veut pas devenir dangereux, donc il faut absolument arriver assez rapidement à ce point d'équilibre.
Pour vous, en quelle année est-ce qu'on verra des voitures autonomes en circulation et pas en test ?
Il y a plusieurs programmes qui prévoient de les mettre en circulation en 2021. On a deux très bons exemples. L'un d'eux est un projet à Tel Aviv avec Volkswagen qui sera mis sur le marché en 2022 et un autre avec BMW qui vise plutôt 2021.
On a vu il y a quelque temps un accident grave avec une voiture Uber. Comment ça se passe, vos tests de la voiture autonome ?
Avec nos voitures, nous n'avons pas connu d'accident. Et la clé, c'est le modèle strict que je vous ai exposé tout à l'heure. On bâtit un modèle pour définir les responsabilités. C'est énoncé très clairement par un ensemble de règles pour être sûr que la voiture ne prenne pas de décision qui, justement, puisse conduire à un accident.
Je crois aussi que ces voitures auront besoin de la 5G. Pourquoi ?
Parce que la connectivité de la voiture n'est pas un élément primordial dans la conception de la voiture. Elles ont besoin d'être connectées pour que la cartographie, par exemple, en temps réel, soit transmise au véhicule. Ça n'a pas besoin d'être vraiment immédiat. Il peut même y avoir un petit délai, car la route quand même ne change pas tout le temps. Mais c'est mieux d'avoir la dernière mise à jour de la route, s'il y en a une. Et un autre besoin de connectivité nécessaire, c'est d'être relié au système de feu tricolore.
Ok, donc on pourra quand même se servir de sa voiture, même s'il n'y a pas de réseau.
La réponse est oui, on peut avoir des moments sans réseau et avoir malgré tout une voiture qui roule.
Merci beaucoup.
Thank you.
Erez Dagan, le vice-président de Mobileye, une société israélienne qui est très en pointe sur les voitures autonomes. Il est 1h19 à Paris, 1h du matin, 16h19 ici, hier, quelque part à Las Vegas. Grégoire, on est en pleine émission spéciale en direct du CES et on rappelle qu'on peut nous envoyer des messages.
Exactement, continuez à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag Europe 1 comme Dunel qui nous dit qu'il nous écoute directement du Chili et qui nous demande s'il serait possible de publier des images de ces véhicules autonomes que nous avons essayé. Alors oui, ça y est, on l'a tweeté avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez voir la photo de cette voiture Valeo et vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook sur la page Europe 1.
On se retrouve dans 30 secondes, vraiment 30 secondes. Ça vous laisse juste le temps de vous demander qu'est-ce qu'on va faire dans cette voiture qui conduit toute seule. Est-ce qu'on risque pas de s'ennuyer ? À tout de suite.
Depuis Las Vegas, Europe 1 en direct du CES. Europe 1.
Enfoiré le Macron.
Tous les jours à 8h40 dans la matinale de Nikos Aliagas.
J'appelle tout le monde à manifester. Je l'organise donc un sleeping devant l'Elysée.
Non, c'est pas un sleeping, c'est un sitting.
Lutte et Canteloup tacle l'actualité.
Mais vous savez, passé 80 ans, quand on s'assoit, on s'endort.
Oui, oui, Nicolas Hulot voulait changer le monde. François de Rugy veut changer les fenêtres.
La revue de presse de Nicolas Canteloup, c'est tous les jours à 8h40 sur Europe 1. Europe 1, Europe 1. Europe 1, en direct de Las Vegas. Vous avez rendez-vous avec le futur. Grégoire Martinez, François Geffrier.
Et vous êtes toujours donc sur Europe 1, il est 1h20 à Paris, 16h20 ici à Las Vegas. Nous sommes en direct toute la nuit pour voir comment notre quotidien va être bousculé par ces innovations que l'on voit ici au CES. Nous avons installé notre studio directement dans le salon et nous sommes en train de parler de voitures autonomes avec Jacques Aschenbroix, PDG de Valeo, et Fabien Roth, directeur marketing de Panasonic Automotive. Alors on voyait tout à l'heure ce reportage où on a essayé une voiture autonome dans les rues de Las Vegas. Est-ce que vous diriez que cette voiture autonome, elle va bouleverser nos habitudes au quotidien ?
Fabien Roth.
Je pense que c'est une évidence que c'est une révolution qui est en train de se passer dans les modes de consommation, dans la façon dont la mobilité va se passer, dans les expériences qu'elle va vous apporter. Et puis, notamment aussi, si vous élargissez un petit peu l'horizon, si on pense pas qu'aux personnes, mais on pense aussi aux biens et aux services, ce sont des véhicules qui peuvent tout à fait devenir très utilitaires et vous permettre d'accéder à des nouveaux services, ce qui n'était pas possible avant.
Est-ce qu'on va plus se déplacer qu'avant grâce à ces voitures autonomes, selon vous ?
Alors, on va se déplacer différemment, mais alors dans un cadre urbain, certainement, d'après notre avis. Ça va être de la mobilité qui est vraiment point to point. Par contre, on pense qu'il y aura beaucoup plus de trafic parce qu'il y a des services qui vont être générés par cette mobilité. Par exemple, ce qu'on essaie de montrer au CES, c'est qu'on va avoir des plateformes, des sortes de modules qui vont pouvoir se déplacer sur des parcours définis et qui vont pouvoir vous apporter des choses. Par exemple, vous faites du shopping online, vous voulez voir un produit, et bien vous aurez un showroom mobile qui se déplace, qui va arriver dans un quartier.
Une vitrine sur roue, quoi.
Exactement, une vitrine sur roue. Ça peut être le cas aussi pour la distribution de produits pour des achats.
Alors Fabien Roth nous dit qu'il y aura plus de trafic. Jacques Aschenbroix, est-ce qu'il y aura plus de bouchons, plus d'embouteillages à cause des voitures autonomes ?
Non, je ne crois pas. Quand on regarde les choses, vous avez tous été à un feu rouge. Et quand le feu devient vert, vous avez remarqué que toutes les voitures ne démarrent pas en même temps. Alors que logiquement, tout le monde devrait démarrer en même temps. On voit qu'une voiture autonome pourrait faire en sorte que toutes les voitures démarrent en même temps. Et toutes les simulations...
Comme les wagons d'un train qui démarrent tous en même temps.
Comme les wagons d'un train où tous les wagons démarrent en même temps. Et quand on fait des modélisations, on voit que s'il y avait une optimisation du trafic, c'est à peu près 30% d'amélioration de la fluidité du trafic. Donc non seulement la voiture autonome va apporter une meilleure sécurité, elle va apporter une reconquête du temps. Vous avez posé la question... Comment est-ce qu'on va se déplacer ? On a une reconquête du temps. On aime conduire, mais on n'aime pas conduire dans les embouteillages. Donc vous allez reconquérir votre temps, et on l'a vu avec Fabien. Et puis ensuite, donc meilleure sécurité, meilleure fluidité, plus de services. Et puis la voiture sera de plus en plus partagée. Donc en fait, les révolutions dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus électriques, de plus en plus autonomes, et cette mobilité digitale fait que la voiture sera de plus en plus partagée. Donc on voit que c'est vraiment un autre écosystème qui va se développer dans les villes et aussi sur autoroute.
Alors pour en arriver là, il faut quand même franchir le pas de monter à bord d'une voiture autonome. Et il y a peut-être un petit cap psychologique qui n'est pas forcément facile à faire si on se dit que ce n'est pas nous qui conduisons la voiture. On va en parler avec la directrice marketing de Ford qui est aussi présente sur ce salon CES de Las Vegas. Bonjour Amy Marentic.
Hi, François.
Comment est-ce qu'on va faire accepter aux gens l'idée que c'est normal de monter dans une voiture autonome?
Vous savez, j'aime beaucoup ce chiffre. Aux États-Unis, 95% des accidents de voiture sont causés par une erreur de conducteur. Le véhicule autonome voit tout. Donc la réponse, c'est que ce sera plus sûr. Ce qu'on a observé, c'est que les gens sont un peu inquiets quand ils montent dans une voiture autonome pour la première fois. Mais qu'assez vite, ils s'y habituent. On sait qu'ils se sont habitués quand ils commencent à parler de tout et de rien sur la banquette arrière. Dans ce que fait le véhicule autonome, le plus important, c'est qu'elle repère tout. Elle voit les piétons, elle voit les voitures sur la route, elle voit les feux de circulation, elle voit tout. À partir de ça, elle peut décider où elle va, à quelle vitesse et quand est-ce qu'elle freine. C'est une combinaison de scanners, de radars et de caméras qui le permet.
Pour vous, est-ce que la voiture autonome, elle servira plutôt pour un usage particulier ou pour les professionnels ?
On la verra dans les deux cas. Je crois qu'on la verra pour des courses comme en taxi, pour des particuliers, mais je crois aussi que les entreprises s'en serviront entre elles et pour livrer des produits. Nous avons plusieurs tests en cours dans notre première ville d'expérimentation, Miami. On s'en sert pour livrer du linge, des fleurs et des pizzas avec la chaîne Domino's.
Il y a aussi d'autres acteurs que les constructeurs automobiles qui sont sur ce marché. Il y a Uber, il y a Google. Qu'est-ce que vous pensez de cette bataille ?
Vous savez, c'est intéressant de voir deux différents types d'entreprises travailler sur la voiture autonome. Il y a les entreprises de la tech d'un côté et on voit aussi des entreprises plus traditionnelles de l'industrie automobile. Ce qu'on fait chez Ford, et on a le luxe de le faire, c'est qu'on est capable de concevoir toute la structure en même temps. On est en train de développer un prototype et pendant qu'on prépare le système de conduite autonome, on prépare déjà les débouchés avec des entreprises comme Domino's, Postmates. On est donc sur les deux fronts et je pense que ça nous donne un petit avantage sur les concurrents.
Donc vous pensez que vous allez gagner cette bataille?
Je pense qu'il y aura quelques leaders dans ce secteur et on a très envie d'en faire partie.
Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.
Europe 1, on est en train de parler de voitures autonomes en direct depuis Las Vegas, où se tient cette semaine le Consumer Electronic Show, le CES. Alors, une petite question, pour monter dans cette voiture autonome, nous, il va falloir qu'on ait confiance en notre voiture, c'est un élément très important. Est-ce qu'on va réussir à acquérir cette confiance rapidement, Jacques Aschenbroix ?
Toutes les expériences qu'on a montrées, notre voiture a été testée par des centaines, voire des milliers de personnes. La première impression, c'est waouh, c'est bluffant et c'est sécurisant. Si c'est bluffant et si sécurisant, je pense que très vite, le public adoptera la voiture autonome dès lors qu'elle sera présente sur le marché.
Et une dernière question pour vous, Fabien Roth. Le prix de cette voiture autonome, ça va nous coûter combien ? Vous soupirez.
On sent la question. Je soupire parce que je pense que c'est un faux problème. Parce que si vous voulez, bien sûr qu'une voiture autonome a une technologie beaucoup plus avancée et que bien sûr que ce sera un prix beaucoup plus important qu'une voiture normale. Mais par contre, ça va apporter une simplification en termes de mobilité. Elle va être partagée. Donc, in fine, je pense qu'on pourra dire qu'on va baisser le coût de la mobilité.
Eh bien, un grand merci à vous deux, Jacques Aschenbroix. Je rappelle que vous êtes le PDG de Valeo et Fabien Roth, directeur marketing de Panasonic Automotive, d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure pour parler de voitures autonomes. Dans 3 minutes, on continue à parler des transports du futur, mais cette fois-ci dans les airs, des projets d'avions électriques, des taxis volants sans pilote et des drones gavés de technologie. C'est la suite du programme, juste après Stromae avec Carmen sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 1h30 à Paris, 16h30 à Las Vegas et l'émission spéciale d'Europe 1 en direct du salon CES continue tout de suite.
Toute la nuit, Europe 1 est en direct du CES de Las Vegas.
Et vous, donc nous sommes toujours en direct du CES de Las Vegas, ici au Convention Center de Las Vegas, là où se passe le salon toute cette semaine. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Facebook via la page Europe 1. Alors nous parlions tout à l'heure de la voiture autonome qui arrivera sur les routes début 2020, mais l'innovation, elle arrive aussi par les airs. C'est le thème de cette deuxième demi-heure. Des drones capables de transporter des passagers aux avions électriques en passant par les drones qui viennent en aide aux humains dans les endroits difficiles d'accès. Nous allons faire le tour des technologies qui arrivent dans les airs.
Et une petite réaction sur Twitter à cette émission avec Mélanie qui nous dit: est-ce qu'il existe des machines à sous du futur à Las Vegas? Écoutez Mélanie, on n'en a pas vu pour l'instant, mais promis, on vous en rapporte une à Paris sur notre vune. L'émission continue.
Avec Europe 1, prenez un temps d'avance. Grégoire Martinez, François Geffrier.
Avant de parler de ces drones, le patron de Wright Electric, c'est le nom de la start-up américaine qui est en train de faire bouger le monde de l'aéronautique en développant un avion électrique qui devrait prendre son envol dans moins de 10 ans.
Et il est avec nous. Bonjour Jeff Engler. Ah, alors Jeff Engler qui n'est pas avec nous, a priori qui est donc le patron de la start-up qui développe un avion 100% électrique avec EasyJet. Alors du coup, on va en profiter, je vais vous présenter les trois invités qui nous ont rejoints sur notre plateau. Bonjour d'abord Pierre Villepoux, vous êtes le... Alors, votre titre exact, c'est Chief Business Officer, qu'on pourrait essayer de traduire en bon français, peut-être par responsable des affaires, c'est ça ?
Oui, oui, je suis un des directeurs associés de la société UAVIA.
Voilà, UAVIA, et alors UAVIA qui fabrique donc des drones.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on...
Dites-nous ce que vous faites exactement.
Voilà, on fournit à nos clients, qui sont des opérateurs industriels, des grands acteurs de ce monde, grandes sociétés françaises ou étrangères, une solution qui leur permet de superviser à distance des drones qui sont pré-déployés sur différents sites industriels pour les commander de manière complètement autonome et à distance.
Et avec nous, il y a aussi Alexandre Liagre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial chez Aeromapper. Alors, vous aussi, vous êtes dans les drones ?
C'est tout à fait ça.
Et qu'est-ce que vous faites, Aeromapper ?
Alors, chez Aeromapper, on est constructeur et opérateur de systèmes drones professionnels qui sont dédiés à des applications de surveillance et de cartographie.
Il y a quelqu'un qui est en face de vous qui opine du chef. Bonjour. Vous êtes Erwin Georges.
Oui, donc moi je suis responsable des activités drones et robots chez Engie.
Et Engie, alors, que fait Engie au CES de Las Vegas ? Engie qu'on connaît pour le gaz, l'électricité, mais...
Alors on vient, il y a aussi les services,
ouais,
aux particuliers et aux entreprises. En fait, on vient au CES avec différentes startups, dont Aeromapper sur mon périmètre, pour montrer un petit peu comment est-ce qu'un grand industriel peut travailler avec des petites startups pour développer des nouveaux services. Et aussi aider des startups à prendre un peu leur envol et gagner en visibilité.
Mais alors, ça veut dire que les drones, pour le grand public, les drones, c'est surtout des jouets qu'on trouve à partir de 40 ou 60 euros dans les magasins de jouets qu'on a vu sans doute au pied du sapin pour certains. Est-ce que cet aspect ludique a pu jouer quand même dans votre envie de faire ce métier ? Avouez, Alexandre Liagre.
Alors, moi, à la base, c'est vrai que je ne viens pas du tout de ce domaine. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même un domaine un peu en pleine ébullition à partir de 2012. Dans un premier temps, moi, j'avais suivi ça d'un petit peu plus loin. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité de monter un petit peu, pas dans le navire, mais dans l'avion, pour rejoindre en fait cette société qui avait un produit totalement novateur et qui, pour moi, était vraiment une solution de demain.
Pierre Villepoux, dans quel type de situation vos drones peuvent être utiles ?
Alors, par exemple, dans des situations de gestion de crise, vous êtes sur un site industriel, une raffinerie pétrolière, par exemple, et soit un exercice, soit un accident réel est déclenché, une alarme. Cette alarme va automatiquement déclencher le décollage d'un drone qui va se promener tout seul dans la raffinerie en connaissant son environnement et va se positionner immédiatement au-dessus de l'incident. Ça permet en gros à tous les gens de la sécurité du site ou des headquarters, en fait, du centre global.
Alors, on va éviter les
anglicismes, les jargons. C'est vrai qu'il y en a partout ici au CES, mais malgré tout, on essaye de faire du bon français.
Ouais,
alors
fait.
Allez-y.
Donc vous avez compris. Donc,
le quartier général.
Le quartier général, voilà, où on se pose des questions sur ce qui se passe sur les différents sites. Et ben, tout le monde peut en direct suivre les opérations de secours. Et une vue aérienne dans plein de situations, c'est très utile.
Et du coup, ça veut dire que maintenant, on commande tout à distance. On n'a même plus besoin de se déplacer, en fait.
Exactement. Les drones sont pré-déployés. Les drones ou les robots, d'ailleurs, on est capable d'utiliser de la même manière des robots qui roulent ou des robots qui flottent ou qui vont sous l'eau. Et en fait, les drones répondent à des missions, soit qui sont prévues de routine, soit sur des alarmes, et vont directement prendre leurs décisions et permettre aux gens de voir ce qui se passe.
Et ça veut dire qu'on peut imaginer, après une inondation ou un sinistre, par exemple, envoyer un drone immédiatement pour voir ce qui se passe, par exemple, sur l'électricité chez Engie ?
Tout à fait. Alors, ce sont pas les... Pierre Villepoux, là. Ce sont pas les...
Excusez-moi, Villepoux qui parle, qui dit lui-même qui il est. C'est très sympa.
Ah, pardon, non, parce qu'on se regardait, on savait pas bien qui devait parler. Donc, j'allais dire, juste avant de passer la parole à mon voisin, que nous, on déploie plutôt des solutions sur des sites industriels, donc qui restent dans le site pour les opérations de maintenance et de sécurité. Mais mon voisin de gauche fait
Alexandre
beaucoup plus
Liagre.
De choses. Voilà, exactement.
C'est ça. Alors, je dirais même que ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être le principal intéressé qui utilise des solutions en interne, qui peut peut-être détailler un cas d'usage d'utilisation de ce type de machine.
Alors nous, chez Engie, cette année et les années à venir, on travaille sur les solutions de drones de surveillance. On travaille aussi sur des développements de robots de surveillance. Parce que sur un site, en fonction de la météo, ou s'il y a du brouillard, ou ne serait-ce que de l'appétence du chef de centre à utiliser un drone ou pas, l'intérêt, c'est d'avoir les deux solutions qui viennent en complément l'une de l'autre. Donc on travaille sur le côté collaboration, et ça va aussi dans le sens de ce que fait UAVIA. Après, on a une approche un petit peu différente, c'est que nos systèmes de supervision, enfin le robot ou le drone, sont déployés de manière pas 100% autonome, C'est-à-dire que, en cas d'une alerte, c'est la personne, le gardien qui est derrière le poste de contrôle qui va dire à la machine de partir faire l'inspection. Donc il y a toujours l'humain qui reste dans la boucle. Ça, c'est peut-être dans un premier temps. Mais c'est vraiment d'être capable de répondre à des besoins de levée d'eau très rapide. À titre d'exemple, s'il y a une menace qui est à 1 km, en moins d'une minute 30, le drone sort de sa base et va faire la levée d'eau.
Pierre Villepoux, quand vous dites que vos drones sont autonomes, ça veut dire qu'ils c'est comme la voiture autonome dont on parlait il y a quelques minutes, c'est ils se conduisent, ils se pilotent tout seuls.
Alors tout à fait. Alors donc les technologies qu'on utilise, qui sont un peu une première dans l'aérien, ressemblent à ce qui se fait dans le véhicule autonome terrestre. C'est-à-dire que chacune des machines qui est connectée à notre plateforme va embarquer un super ordinateur avec une intelligence que nous avons développée et qui permet au drone en fait d'avoir un pilote à l'intérieur qui est une intelligence artificielle. Et ça présente plein d'avantages.
C'est du logiciel, quoi.
C'est du logiciel.
Mais il sait se comporter face aux oiseaux, face aux nuages, face aux arbres.
Face à énormément de choses, et notamment parce qu'il est capable de mesurer en temps réel son propre contexte. Il est capable de prévoir qu'il est en train d'avoir une défaillance, ce qu'un pilote au sol ne pourrait pas savoir. Il est capable de prendre en compte en temps réel les conditions météo, les risques éventuels qui sont connus sur le site, les zones dangereuses ou pas.
Ça veut dire qu'il doit être très très gros votre drone, parce que s'il a tous ses capteurs...
Il est gros, alors c'est pas notre drone, mais nous on met un ordinateur sur n'importe quel type de drone. D'accord. Donc aujourd'hui, chez les industriels, oui, vous avez des drones qui font quelques kilos, on va dire 5-6 kilos, et qui font des missions un petit peu complètes. Mais n'importe quel type de machine doit pouvoir à terme accueillir notre technologie et pour rendre les machines complètement autonomes.
Donc on est en train de voir ce qui se passe dans le ciel. Les drones qui vont voler au-dessus de nos têtes et qui volent déjà au-dessus de nos têtes pour nous aider et assister les humains. Une petite question, est-ce que ces drones, ils sont déjà capables d'aller partout? Il y a des endroits qui sont encore difficiles d'accès, Alexandre Liagre?
Alors... les drones sont en général capables d'aller dans beaucoup d'endroits où d'autres solutions ne peuvent pas aller, des endroits difficiles d'accès, soit par une densité de forêt ou une élévation qui fait que c'est long et compliqué d'aller à quelque endroit dans ce type d'endroit. Après, il y a toujours une notion de dangerosité ou de sécurité auquel les préparations de mission sont faites pour ça, pour vérifier les faisabilités en fait, de chaque opération que l'on va décider de faire. C'est toujours un premier point parce que dans un milieu professionnel, on a comme attention et comme intention de faire les choses de façon à n'avoir jamais d'accident.
Il y a aussi un autre marché qui est très important et qu'on n'imaginait pas il y a quelques années, c'est tout ce qui est inspection indoor. Donc dans les usines.
Vous travaillez chez Engie, Erwin George.
Indoor à l'intérieur.
L'intérieur, voilà. C'est par exemple les inspections dans les usines, les inspections dans des chaudières industrielles. Et là aussi, on va dire, les systèmes qui existent aujourd'hui sont, on va dire, protégés par des cages. Mais si on était capable d'automatiser à 100% les systèmes pour faire ce type d'inspection et de les déployer à la demande avec le même type de plateforme qu'Avia, il y a un vrai besoin. C'est très, très, c'est un marché qui est juste énorme.
Voilà, donc on était en train de voir ce qui se passait dans les drones, mais il se passe aussi des choses du côté de l'aviation avec les avions commerciaux. Et on essayait tout à l'heure d'avoir le patron de White Electric, Jeff Engler, qui développe un avion 100% électrique pour EasyJet. Et je crois qu'on l'a. Bonjour Jeff Engler.
Hi Gregoire, how are you?
Ça va bien, merci. Alors d'abord, une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre projet avec EasyJet?
Oui,
notre projet avec EasyJet est de construire un avion de ligne hybride ou totalement électrique qui puisse transporter entre 150 et 200 passagers du même genre que les avions utilisés par EasyJet aujourd'hui.
Et on parle bien d'un avion tout électrique.
Nous n'avons pas encore décidé de si c'est 100% électrique ou hybride. Ça dépendra un peu des batteries qu'on aura dans le futur.
Et du coup, est-ce que vous avez déjà une idée du type de batterie? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer vous-même ou quelque chose qui existe déjà?
Nous n'avons pas annoncé le type de batterie dont on se servira. Ce sera sans doute une combinaison entre les batteries lithium-ion d'aujourd'hui et des batteries du futur.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les bonnes batteries pour faire un avion électrique.
Non, ce n'est pas possible avec les batteries qu'on connaît. Mais avec les avancées qu'on aura d'ici 5 ans, on pense que ce sera jouable.
Qu'est-ce qui leur manque justement aujourd'hui à ces batteries pour que ça fonctionne?
Il faut que les batteries soient plus légères. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus.
Et vous êtes combien à travailler sur le projet?
C'est une équipe de 10 personnes.
Vous avez déjà fait des tests?
Oui, notre équipe a déjà construit un avion de deux places avec notre partenaire Axter Aerospace. Et maintenant, on travaille sur un avion avec 4 fois plus de sièges.
Oui, parce qu'il y a un énorme écart entre un avion de deux places et un avion de ligne. Est-ce que c'est faisable, sachant qu'en plus, vous voulez avoir terminé le projet en 2027?
Oui, il y a une grosse marge à parcourir. C'est pour ça qu'on a fait un avion de deux places. Puis, on va faire un avion quatre fois plus gros, et ainsi de suite. On pense que dans environ 10 ans, on sera capable d'avoir un avion de taille normale.
Ce grand avion, il pourrait voler sur quelle distance? Vous avez déjà une idée?
Oui, on espère atteindre une heure de vol, donc par exemple entre Londres et Paris, ou bien de Londres à Amsterdam. Donc en termes de kilomètres, c'est en dessous de 500 kilomètres.
Alors il me semble qu'Airbus a déjà tenté un projet de ce genre qui s'appelait IFAN. Ils ont abandonné. Pourquoi est-ce que vous pensez y arriver?
Je crois qu'Airbus travaille sur un projet similaire. Et c'est sain que plusieurs entreprises recherchent la même chose. Ce sont des défis très difficiles pour les ingénieurs, mais nous pensons que notre équipe est capable de les relever.
Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce projet avec EasyJet et pas avec toutes les compagnies ?
EasyJet, c'est parfait pour deux raisons. D'abord, pour une raison opérationnelle, car environ 20% de leurs vols sont de moins d'une heure. Deuxièmement, il y a une vraie logique à faire ça avec eux parce qu'ils ont vraiment envie de réduire leurs émissions polluantes et leurs coûts pour permettre aux usagers de payer moins cher.
Et alors, pour réussir, le plus gros défi technique à relever, c'est quoi ?
Le plus gros défi technique, c'est le stockage de l'énergie, les batteries.
Et alors cet avion électrique, parlez-nous-en, il sera moins bruyant qu'un avion normal ?
Oui, on pense que ça pourrait faire moins de bruit.
Et on se sentira dedans comme dans un avion classique ?
Oui, on pense que l'intérieur de la cabine sera aussi confortable que dans un avion normal.
Alors là, le projet sur lequel vous travaillez, c'est un avion pour de courtes distances. Est-ce qu'à plus long terme, on peut imaginer un avion long courrier tout électrique ?
On ne sait pas si ce sera totalement électrique, mais ça pourrait certainement être hybride d'ici 15 ou 20 ans.
Merci beaucoup pour votre temps et on espère vraiment pouvoir le tester quand ce sera prêt. Hein.
Oui, bien sûr, on adorerait que vous puissiez l'essayer. Merci beaucoup.
Thank you so much for your time.
Take care.
Jeff Engler, le patron de la start-up Bright Electric qui veut faire des avions de ligne de 150 passagers, tout électriques, avec des moteurs électriques.
Exactement, merci aussi beaucoup à vous d'être venu sur le plateau. Merci Pierre Villepoux, responsable des affaires de la start-up Uavia. Alexandre Liagre, vous êtes directeur commercial chez Aeromapper. Et Erwin Georges d'Engie. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur Facebook via la page Europe 1. Et surtout, restez avec nous, on continue à parler des transports du futur en direct depuis le salon de l'innovation de Las Vegas dans quelques instants.
Depuis Las Vegas, Europe 1 en direct du CES. Avec Europe 1, prenez un temps d'avance. Grégoire Martinez, François Geffrier.
Retour ici au cœur du CES, le grand salon mondial de l'innovation. Nous sommes en direct depuis trois quarts d'heure maintenant à Las Vegas. Ici, nous sommes toujours mardi 16h45 à Las Vegas, alors que chez vous en France, vous qui nous écoutez, il est 1h45 du matin. Et avec nous, deux nouveaux invités toujours en direct. Nicolas Forgue, directeur technique chez Air France KLM. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et aussi Marc Moore, directeur de l'ingénierie chez Uber Elevate. Uber Elevate, qu'est-ce que c'est, Grégoire Martinez ?
Eh bien, c'est la branche d'Uber qui développe ce fameux drone taxi, celui dans lequel on montera a priori en 2023. Alors, on va commencer par vous. Marc Moore, bonjour.
Hi.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup à vous. Vous êtes le responsable de l'ingénierie d'Uber Elevate. C'est la branche d'Uber qui gère tous les projets en rapport avec les taxis volants. Alors déjà, première question, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Uber Elevate ?
Uber Elevate is a whole new way.
Alors Uber Elevate, c'est une manière toute nouvelle de se déplacer dans les villes. C'est une nouvelle solution de transport par taxi aérien dans les grandes villes.
Et vous travaillez donc sur un drone taxi.
Yeah, you can call it a drone taxi. This is a new type of aircraft.
Oui, vous pouvez l'appeler drone taxi. En fait, c'est quand même plutôt un nouveau type d'avion entièrement électrique qui va décoller et atterrir à la verticale et qui peut transporter de 4 à 5 passagers dans les villes. Au départ, il y aura un pilote, mais à terme, nous voulons passer à des drones totalement autonomes.
Et alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ces drones soient prêts à voler ?
Yeah, so we're pushing towards a target.
Oui, nous travaillons donc en ce moment pour atteindre notre objectif de lancer ces drones pour le transport du public en 2023, et ça demande que tout s'organise très vite. Ces nouveaux types d'avions dont je vous parlais tout à l'heure sont très importants parce qu'ils seront plus silencieux, plus rapides, plus sûrs que des hélicoptères. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qu'il ne faut pas négliger, comme l'infrastructure et les héliports où ces appareils se poseront et décolleront. Pour cela, nous travaillons avec des entreprises du bâtiment. Et puis, il y a aussi le contrôle aérien avec qui nous sommes en contact pour développer le système qui permettra de gérer ces drones. La dernière chose, ce sont les batteries. Nous développons un tout nouveau système très avancé qui doit nous permettre d'avoir un appareil tout électrique. À la fin, toutes ces choses doivent s'imbriquer un peu comme un puzzle pour nous permettre de commencer en 2023.
Et donc ici, au CES, vous annoncez quelque chose avec votre partenaire Bell.
Oui, en fait, nous avons 5 constructeurs différents d'avions qui développent des projets pour nous. Bell est le premier partenaire avec qui nous avons travaillé et ils présentent ici pour la première fois leur taxi volant urbain. Il est magnifique. Hein. Il faut que vous alliez absolument le voir ici au CES.
Et il ressemble à quoi ce drone volant ?
C'est vraiment unique hein, parce que bon, il y a plein d'entreprises hein, comme Airbus, Boeing qui travaillent sur ce type d'appareil. Celui de Bell a 6 hélices et ce que l'on appelle un système de distribution électrique qui fait, et ça c'est passionnant, hein, que si l'une de ces hélices, chacune ayant un moteur, bien, si chacune de ces hélices a un problème, le drone peut toujours voler en toute sécurité avec seulement 5 hélices. Et ça, c'est tout simplement impressionnant. Alors, cette redondance, hein, comme on dit, qui est intégrée, augmente la sécurité du vol.
Another unique attribute of these ducts that wrap around the propeller is they act as.
Et puis, il y a une autre des particularités de ces hélices, c'est qu'elles étouffent le bruit, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de bruit au-dessus des zones où vole le drone que si, par exemple, c'était un hélicoptère.
Vous en avez déjà testé ? Il y en a déjà qui ont volé de ces drones ?
So some are flying in private.
Oui, certains volent déjà pour des tests privés. J'ai déjà vu beaucoup de tests à la fois au sol, mais aussi dans les airs, avec différents modèles. Mais bon, ils sont encore en développement. Nous prévoyons de les faire voler en public de manière expérimentale à partir de 2020. Et nous serons capables de les utiliser comme un service d'Uber à partir de 2023.
Ce lancement commercial en 2023, ce sera aux États-Unis ou ce sera aussi dans d'autres pays ?
Oui, vous l'avez peut-être vu, hein, nous avons déjà annoncé 2 villes, Dallas et Los Angeles, qui seront les premières où ce service sera disponible. Nous avons aussi annoncé que nous allions choisir une 3e ville, là très très rapidement à l'étranger. On est en train de regarder où, d'un point de vue international, ce sera le plus intéressant. Les 5 dossiers sont la France, l'Australie, le Japon, l'Inde et le Brésil. Ce sont les 5 pays que nous regardons en ce moment.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont peur d'avoir plein de grosses abeilles, entre guillemets, au-dessus d'eux en 2023 qui voleront dans leur ville ?
Oui, je comprends que ça puisse les concerner, je comprends ces craintes. Mais si vous pensez aux oiseaux, on n'a quand même pas peur lorsqu'ils volent au-dessus de nous. Il y a plus d'un milliard d'oiseaux au-dessus des États-Unis à n'importe quel moment. Donc, je suis d'accord, mais je pense que c'est un peu comme quand les premières voitures ont été présentées. Les gens avaient peur quand ils étaient sur leur cheval et qu'une voiture passait à côté. Mais très vite, la société a commencé à mieux comprendre cette technologie, cette nouvelle façon de se déplacer. Et ce qu'elle pouvait leur apporter, comme le fait de ne plus nettoyer, par exemple, les crottes de cheval. Vous pouvez aller plus vite et être plus productif. Donc, c'est normal d'être effrayé et demander à ce que finalement, à cette nouvelle technologie, fasse ses preuves et que les gens s'y habituent.
Et justement, vous avez déjà une idée des prix ?
Oui, dès le début, nous serons entre 30 et 40% moins chers qu'un trajet en hélicoptère, car nous sommes très efficaces et nous utilisons des appareils électriques qui consomment beaucoup moins. Donc, au départ, ce sera environ, et c'est précis, hein, $5.70 par passager et par kilomètre. Une fois qu'on aura démontré que ça fonctionne parfaitement, nous pourrons augmenter l'utilisation de nos drones de 300 heures par an à 2000 heures. On pourra aussi mettre plus de passagers, de 2 au départ à 3 ou 4. Nous arriverons alors à un tarif de $1.11 par kilomètre, ce qui est similaire un Uber X aujourd'hui. Et donc, on ira très vite vers ce tarif grâce à l'augmentation des usages et le partage du drone entre plusieurs personnes.
Merci beaucoup, Marc Moore.
Oh, thank you for having me.
Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment super. Merci beaucoup.
Marc Moore, directeur de l'ingénierie Uber Elevate. Ce sont ces taxis volants. Cette incroyable interview sur Europe 1 en direct du CES de Las Vegas. Il est 16h52 ici. Nous sommes bien en direct puisque chez vous en France, il est 1h52 du matin. Nicolas Forgue, vous êtes le directeur technique d'Air France KLM. Vous avez pris un avion et non pas un drone pour venir jusqu'ici à Las Vegas. Vous travaillez notamment, vous, sur l'intelligence artificielle et notamment les chatbots. Alors, on va éviter tout jargon, tout anglicisme. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot et qu'est-ce que vous en faites, vous?
Alors, un chatbot, pour le faire très, très clair, c'est finalement un robot qui est capable d'interagir avec un utilisateur en utilisant le chat. Le chat qui est donc une interface textuelle.
C'est quand, le chat, c'est-à-dire quand on discute en ligne sur Facebook, WhatsApp, même un SMS à la limite.
Alors, le SMS, c'est pas considéré comme du chat, mais effectivement, vous avez raison. C'est quand on est sur Facebook ou WhatsApp.
Et vous l'utilisez pourquoi, vous, ce chatbot, ce robot qui discute?
Alors, on utilise plusieurs chatbots. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir finalement, dans un premier temps, faciliter l'accès à des informations qui aujourd'hui étaient sur des sites web et le fait dans une interaction naturelle pour un utilisateur. Donc vous avez des chatbots sur finalement l'inspiration du voyage. On aide à réfléchir au voyage que la personne souhaiterait faire sans avoir une idée très précise. On aide aussi à répondre aux questions sur les bagages.
Si j'ai perdu mon bagage, par exemple, je vais pouvoir lui poser une question ?
Exactement.
Et il va me dire où est mon bagage, il va essayer de m'aider à le retrouver ?
Alors non, aujourd'hui le bot est principalement sur l'information, pas sur le service autour du bagage. On y travaille, bientôt on sortira des choses pour pouvoir répondre à ce type de questions. Mais aujourd'hui c'est plutôt si vous avez des questions sur combien de kilos de bagages je peux emmener avec moi, les questions sur les animaux domestiques, ce type de questions.
D'accord.
Tout autre chose, vous travaillez aussi sur l'aéroport du futur. Et avant d'y revenir, je vous propose d'écouter ce reportage d'Aurélien Fleureau, qui est spécialiste transport à Europe 1.
Vous êtes dans le hall de l'aéroport, un peu perdu, et là, une borne mobile se dirige vers vous, un robot qui va vous permettre de vous enregistrer et de compiler vos données biométriques, passeport, photos. Ensuite, plus besoin de ressortir votre carte d'embarquement. Votre sésame pour les étapes suivantes sera votre visage grâce à la reconnaissance faciale. Voilà un exemple parmi les technologies proposées par CITA, une coopérative internationale qui regroupe des centaines de compagnies aériennes et d'aéroports, présidée par la Française Barbara Dalibard, qui rappelle qu'avec la croissance continue du trafic aérien, fluidifier les étapes avant d'embarquer est un enjeu majeur.
Plus le passager est en charge de son parcours au sein de l'aéroport, plus il est satisfait. Automatiser un certain nombre de processus qui vous permettent de passer de façon fluide, qu'il s'agisse des portillons d'embarquement, de sécurité. On voit par exemple à Orlando, on arrive avec ces nouvelles technologies à embarquer un avion de 240 places en 10 minutes, ce qui est un challenge.
Autre challenge, anticiper au maximum les retards ou même les turbulences. Et ça, ce sera possible grâce à l'intelligence artificielle.
Un reportage donc d'Aurélien Fleureau, spécialiste transport à Europe 1. Nicolas Forgue, je rappelle que vous êtes directeur technique d'Air France KLM. Vous aussi, vous travaillez sur l'aéroport du futur. Et dans cet aéroport du futur, on va mettre de la biométrie, c'est ça ?
Tout à fait. On travaille depuis quelques mois maintenant, enfin je devrais dire presque un an, sur une expérimentation pour utiliser la biométrie pour faciliter en fait le parcours du passager en aéroport. Donc, pour donner quelques explications sur la biométrie qu'on veut utiliser, c'est celle qui reconnaît le visage, puisque chacun passant est possédant un passeport avec une image de lui-même. L'idée, c'est de pouvoir faire matcher l'image en live du passager. L'image en temps réel du passager avec l'image qui est enregistrée sur son passeport.
Ça veut dire que dans mon trajet à l'aéroport, j'aurai plus à sortir ma carte d'embarquement papier, je vais tout faire simplement avec mon visage?
Alors, comme il y a certaines contraintes, l'idée est plutôt d'enlever les points de pénibilité et d'avoir à montrer plusieurs fois son passeport lors des contrôles. Vous aurez toujours la carte d'accès à bord parce qu'elle est obligatoire pour embarquer, mais en fait, l'initiative qu'on expérimente depuis fin novembre, c'est de pouvoir encapsuler les informations du passeport, et notamment l'image, dans la carte d'accès, qu'on appelle la carte d'accès à bord biométrique, de façon à ce que lorsque vous arrivez en porte d'embarquement, donc vous vous êtes enrôlé au moment de l'enregistrement ou au moment du changement de bagage.
Vous avez dit que c'était vous, parce qu'enrôlé, c'est pareil.
Ouais. C'est vrai. Et lorsque vous arrivez à l'embarquement, en fait, une caméra vous voit Et à la lecture de la carte d'accès à bord, en fait, elle reconnaît que c'est bien vous qui êtes la personne qui veut passer la porte d'embarquement.
La biométrie dans les aéroports, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Nicolas Forgue, d'être passé dans ce studio éphémère d'Europe 1 ici au salon CES de Las Vegas. On continue à parler d'innovation et de nouvelles technologies dans un instant. On s'intéressera notamment à ce qui pourrait changer le monde de la santé ou de la maison connectée.